Des reportages inédits,
des chroniques fantastiques,
de l'actualité et de la bonne musique.
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, sur Radio Far West.
Bonjour à toutes et à tous, ici Radio Far West pour une toute nouvelle émission. J'espère que vous êtes d'attaque car aujourd'hui c'est d'économie que nous allons parler principalement.
Et oui, pour mon tout premier reportage, nous allons aborder le sujet du marketing relationnel.
Mais ce n'est pas tout. Au programme des actualités, des chroniques sur la drague et la musique et des excellentes musiques nous attendent.
Comme d'habitude, nous consacrons tous beaucoup de temps à faire nos émissions, alors un grand merci à ceux qui nous écoutent.
Pour les petits nouveaux auditeurs, on vous invite à écouter les 4 premières émissions si ce n'est pas encore fait.
Sans plus tarder, on va tout de suite passer à l'actualité.
Alors, pour les actualités de la semaine, qu'est-ce qu'on a ? Eh oui, dorénavant, tous les nouveaux pères de Suisse pourront bénéficier de 10 jours de congé paternité dès 2021. En effet, l'initiative populaire lancée par l'association Le Congé Paternité Maintenant, qui demandait 20 jours de congé, a été retirée car les initiants ont accepté le contre-projet approuvé au Parlement. Après l'acceptation de la nouvelle loi par l'Assemblée fédérale le 27 septembre, l'association avait 10 jours pour se prononcer. À la suite du retrait conditionnel de l'initiative, il signait il n'y a pas de référendum, la loi pour un congé paternité de 10 jours doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. Merci au journal du 24h pour ces infos pertinentes qui nous concerneront sûrement tous très prochainement. On passe maintenant à un thème beaucoup moins sympathique. Et oui, malheureusement, le 5e président de la République est décédé le 26 septembre à l'âge de 86 ans. Des milliers de Français sont venus rendre hommage dimanche dernier au charismatique Jacques Chirac. Ils se sont tous retrouvés aux Invalides, dont la cour avait été ouverte pour l'occasion. Ils ont pu signer des registres de condoléances et se recueillir quelques instants devant le cercueil de l'ancien président. Lundi dernier, l'ex-président s'est fait enterrer au cimetière de Montparnasse dans l'intimité familiale. On souhaite bien évidemment à tous ses proches nos sincères condoléances. On passe tout de suite à l'actualité sportive. Le 17e championnat d'athlétisme a débuté le 27 septembre, à 3 ans de la Coupe du Monde de football organisée au Qatar. Le manque de spectateurs et la chaleur étouffante relancent le débat sur le choix du pays. En effet, il y a eu un pic à 40 degrés ressenti. Les athlètes à bout de souffle n'ont pas été dans les bonnes conditions afin de pouvoir pratiquer leurs disciplines respectives. En résultat, beaucoup d'abandons de sportifs et principalement dans les épreuves d'endurance. Ces championnats du monde d'athlétisme ont été, par beaucoup de monde, définis comme un fiasco monumental car ils se déroulent sous une assistance très réduite. Rendez-vous compte, même les épreuves reines, comme les finales du 100 mètres, se sont déroulées devant des sièges vides. Il y a eu seulement 11 000 spectateurs le week-end du 28 et 29 septembre.
Après ce petit tour d'actualité, passons dès à présent à la chronique suivie de Mathéo.
Avis à tous les fans de jazz, écoutez bien, ça risque de beaucoup vous intéresser.
Bon, je vous l'avais promis la dernière fois, voici l'histoire du jazz. T'écoutes un peu de jazz toi, Jeanne ?
Ouais, de temps en temps, mais j'écoute très peu malheureusement.
Ok, sympa. Bon, moi, je sais pas si tu sais, mais j'écoute énormément de jazz, mais je connaissais pas son histoire jusqu'à il y a quelques semaines. Du coup, j'ai fait des petites recherches et je te propose de découvrir l'histoire du jazz.
Avec plaisir. Et en plus, tu nous as réservé une surprise pour la fin, non ?
Exactement. Mais restez avec nous pour la découvrir. Je ne vais pas la dévoiler tout de suite. Et vous verrez, c'est assez amusant. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
Alors, c'est parti.
Donc, le jazz est apparu à la fin du 19e siècle dans les États sud-américains, surtout dans la Nouvelle-Orléans. Il a été créé, si je peux dire ça, par la communauté noire afro-américaine. Durant l'esclavage, les esclaves vont commencer à créer de la musique en s'accompagnant du rythme de leurs outils pour survivre dans des conditions de vie inhumaines. C'est ce qu'on appelle les « work songs ». Les propriétaires blancs vont ensuite leur apprendre des chants religieux que les esclaves vont réarranger à leur façon, et c'est ce qu'on appelle les « gospels ».
Il y a eu des changements avec l'abolition de l'esclavage en 1865 ?
Oui, effectivement. Ces personnes, les communautés noires afro-américaines, commencent à apprendre principalement le violon et le piano. Mais la vie, elle reste particulièrement dure, excusez-moi. Les afro-américains ne trouvent que du travail dans les divertissements populaires.
Donc dans les bars, cabarets, etc.
Exactement. Les musiciens noirs vont ensuite former des fanfares qui jouent pour des célébrations, des mariages, des enterrements, etc. Et c'est dans ce contexte que naît le ragtime. C'est une musique rythmique qui se propage dans tous les États-Unis, donc qui part de la Louisiane et qui va donner naissance au jazz. Ce premier style de jazz s'appelle le New Orleans, vu qu'il est né à la Nouvelle-Orléans.
Qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Le jazz a bien évolué, non ?
Durant les années 30, c'est l'apogée du swing. Ce style de jazz est plus structuré et le jazz est enfin perçu comme une forme de musique populaire. Cependant, les conditions de vie des Noirs américains ne s'améliorent pas et le bebop fait son apparition. Contrairement au swing, qui était une musique de danse structurée, le bebop est lui une musique de révolte. La musique est plus lente ou plus rapide, les grands orchestres sont remplacés par des petits ensembles et les mélodies, et thèmes qui sont agréables disparaissent pour laisser place au solo. En fait, l'expression individuelle est très privilégiée. Après ça, de nombreux styles de jazz se sont succédés. Le hard bop, le jazz modal, le free jazz et j'en passe plein. Vers 1970, le jazz fusionne même avec le rock pour donner le jazz rock ou le jazz fusion. Et en 1980, apparaît l'électro-jazz. Donc c'est du jazz avec des instruments électroniques, des synthétiseurs, des séquenceurs, etc.
Donc c'est un style avec une histoire derrière et en plus de ça, ça a pas mal évolué. Il y a plein de styles de jazz différents.
Exact. Pour conclure, je vous avais promis une surprise.
C'est-à-dire ?
Eh ben, on va jouer à un jeu.
Ah yes, c'est quoi ? Blind test ?
Presque. En fait, c'est un blind test, sauf que je vais mettre les musiques en arrière. Et on devra retrouver le titre ou l'artiste. Léla, tu participes ?
Avec plaisir.
Ok, bon, alors on va mettre le premier titre. Vous, en tant qu'auditeur, vous pouvez toujours participer. Hein, vous soyez sous la douche, dans la voiture, au travail. Vous pouvez faire une petite pause détente et jouer avec nous. On laissera un temps de pause pour que vous puissiez réfléchir. En studio, vous pouvez lancer la promission, s'il vous plaît. Bon, on commence simple. Quelqu'un a une idée ?
Trop facile, It's a Man's World.
Ah ouais, t'as raison, de James Brown.
J'espère que vous avez trouvé, vous, en tant qu'auditeur, parce que c'est la plus simple. Allez, passons à la suivante. L'une des plus grandes chanteuses de jazz, ça reste facile et c'est...
Je dirais Feeling Good de Nina Simone, non ?
Exactement. Bon, le prochain, il est assez dur. Faut essayer de reconnaître la voix parce que la musique, elle change énormément de l'original.
Là, je t'avoue que j'ai de la peine. Hein. Ouais, moi aussi.
What a wonderful world. Ça vous dit rien ?
Ah ouais, c'est What a wonderful world.
Ouais, on reconnaît la voix cassée et assez grave de Louis Armstrong. Bon, on passe vite. Voici, je vous propose de passer un dernier extrait. C'est le plus dur, je trouve, mais c'est un grand classique du jazz. Comme indice, 5.
5 ?
Ouais, le mot, il apparaît dans le titre du morceau. Bon, celui-là, il est hyper compliqué, hein. Est-ce que vous avez une idée ? Ah, Lucas, j'ai l'impression que t'as une idée.
Bah écoute, c'est simple, je l'ai écouté hier ce morceau. Je savais pas le nom, donc j'ai Shazam et c'est Take 5 de Dave Brubeck, non ?
Exactement, Dave Brubeck. Nous devons vous laisser parce que Lucas a envie de présenter son reportage. N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter tous les vendredis, samedis et dimanches à 21h sur radiobus.fm. La semaine prochaine, ma dernière chronique va être dévoilée. Je vous dis pas de quel style de musique on va parler. Pour le savoir, il faudra nous écouter. Et si par mégarde vous avez loupé une de nos émissions, vous pouvez toujours les retrouver sur radiobus.fm en podcast. Bon, j'ai assez parlé. Passons à la suite de l'émission.
Après avoir écouté One Day de Codaline, on va maintenant passer à la première partie de mon reportage.
Dis-moi Lucas, avant-hier, je me suis fait approcher par quelqu'un qui voulait apparemment me faire entrer dans une entreprise. Je lui avais demandé plus de renseignements et il m'a parlé de marketing de réseau. Par hasard, tu sais ce que ça voulait dire? Tu sais de quoi il voulait parler?
Oui, je connais des tas de choses sur ce sujet-là. Alors, pour que tu comprennes, il va falloir t'expliquer ce que sont tout d'abord les MLM, donc les Multi-Level Marketing, qui proviennent du marketing de réseau ou du marketing relationnel. Alors, je vais commencer par poser les bases dans cette première partie afin de t'expliquer le contexte et te présenter les différentes informations pour que toi et tous les auditeurs puissent comprendre ce sujet et ses problématiques.
Avant de commencer, j'ai une petite question, Lucas. Moi qui te connais bien, comment sais-tu autant de choses sur ce thème-là?
Merci pour la question, Mathéo, j'allais y venir. Eh bien, figure-toi que j'ai été également approché par une entreprise qui marchait avec ce système de marketing. On m'a plus ou moins expliqué comment ce système marchait et on me l'a vendu comme si c'était LE système qui te ferait gagner de l'argent à coup sûr. Et franchement, les personnes qui m'avaient présenté l'entreprise étaient de beaux parleurs, mais ils trouvaient vraiment les bons mots pour te convaincre de rentrer dans le système de marketing. À la suite de cet entretien avec eux, j'ai décidé de mener ma petite enquête et j'ai trouvé tout ça très intéressant pour le présenter comme reportage. Alors tout d'abord, pour bien faire comprendre à tout le monde, il faut expliquer ce qu'est la notion de marketing pour une entreprise. T'es au clair avec ça toi, Mathéo?
Alors je pense que tout le monde connaît ce mot, mais pour très peu de gens, je pense que c'est pas très clair finalement ce que ça signifie.
Ouais, je comprends, j'ai alors bien fait de vouloir la définir. Alors il existe plusieurs définitions, mais il y en a une qui s'est détachée des autres selon moi. Alors selon Monsieur Eric Vernet, l'ancien président de l'Association française du management, donc le marketing est la mise en œuvre de toutes les techniques de l'entreprise qui dirige le flux de biens et services vers le consommateur. Donc pour le reformuler avec mes mots, c'est l'utilisation de différentes techniques pour que l'entreprise puisse au mieux vendre ses produits ou services vers ses consommateurs clients. Et donc le marketing relationnel est une de ces techniques employées par certaines entreprises.
Et alors en quoi consiste ce système de marketing, ce système-là?
Alors qu'est-ce que c'est? C'est un modèle d'affaires de distribution de produits par le biais du bouche à oreille.
Du bouche à oreille?
Oui, c'est quand il y a un partage d'informations basé sur la confiance et la communication. Vous savez, dans la plupart des modèles de distribution, nous avons l'entreprise qui fabrique le produit en question, qui ensuite va le vendre à l'intermédiaire et qui ensuite finalement va le revendre au client.
Ah, tu vas parler par exemple d'une entreprise qui utilise un modèle de marketing normal. Elle fabrique par exemple des sucettes et va les vendre à un intermédiaire, on va dire à la coop, et puis ensuite la coop va les revendre au client pour un peu plus cher que ce qu'elle les avait achetées, et tout ça pour faire du bénéfice.
Oui, c'est exactement ça. Et bien en fait, un des points importants du marketing relationnel est qu'il n'y a tout simplement pas d'intermédiaire pour la vente des produits. Les entreprises se sont adaptées pour trouver d'autres moyens que la publicité pour faire connaître leurs produits, car souvent la publicité, ça coûte très cher pour l'entreprise. Elles ont alors trouvé, pour ce type de marketing-là, la notion du bouche à oreille pour promouvoir leurs produits, et figure-toi que ça peut parfois mieux marcher que la publicité entre guillemets basique. Cette même notion de bouche à oreille veut forcément aussi dire qu'il n'y aura plein d'intermédiaires et que les produits de l'entreprise vont directement de l'entreprise aux mains des clients.
Attends, mais s'il n'y a pas d'intermédiaire, qui est-ce qui va s'occuper de la vente des produits de l'entreprise?
C'est tout simplement les clients qui se chargeront de faire la promotion du produit en recrutant d'autres personnes et en leur vendant le produit de l'entreprise.
C'est bien beau tout ça, mais dans le marketing, il y a toujours ce facteur du lucratif. Comment les clients et l'entreprise se font alors de l'argent?
Le marketing de réseau fonctionne avec un réseau pyramidal. À chaque fois qu'un client recrute une personne, celle-ci se placera à un niveau en dessous de son recruteur, d'où le nom multi-level marketing. Chaque client de l'entreprise peut alors avoir deux autres clients sous sa tutelle qui eux-mêmes vont avoir deux clients, etc. En résultat, ce marketing a l'avantage d'être exponentiel. Chaque recruteur est alors récompensé d'une commission donnée par l'entreprise pour toutes les personnes qui se positionnent à tous les niveaux inférieurs à son propre niveau. Cette commission qui est donnée par l'entreprise est souvent très généreuse et lucrative pour les clients, car nous savons qu'un client satisfait de nos jours est à la base de tout développement d'un marché. Pour essayer d'imaginer mes propos, imaginons Monsieur A qui recrute deux autres personnes, Monsieur B et Monsieur C. On dit alors que Monsieur A les parrainera. Il touchera alors une commission pour les deux nouveaux entrants dans l'entreprise. Si quelques jours plus tard, Monsieur B recrute un certain Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur B toucheront la commission. L'entreprise est financée avec ses propres produits vendus comme toute autre entreprise. Je vous propose maintenant de faire une courte pause dans le sujet.
Exactement, et nous allons vous passer Apologize de One Republic.
Thank you. what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say that it's too late to apologize. It's too late.
Maintenant à la suite du reportage sur le multi-level marketing.
Durant tout le long de la musique, je me suis posé une question, Lucas. Quels sont les avantages pour un client de rentrer dans un marketing relationnel ?
Eh bien, tout d'abord, comme tous les membres d'une même équipe gagnent des revenus lorsque quelqu'un fait une vente, ces entreprises sont davantage basées sur la coopération que sur la compétition. Tout le monde veut que tout le monde réussisse pour amasser le plus d'argent. Le client est également indépendant du temps qu'il consacre à son travail. Le fait de vouloir recruter va forcément vous demander de travailler votre façon de parler aux gens, car pour les convaincre, il faudra réellement être sans faille. Cela peut être très utile dans la vie du quotidien. Et pour finir, un des plus gros avantages est que les gains que les nouveaux clients peuvent gagner sont illimités, car selon l'expérience et la facilité du recrutement, ils peuvent réellement amasser beaucoup plus que dans un travail entre guillemets traditionnel.
Ok, je vois. Et il y a vraiment plusieurs avantages à vouloir bosser dans un système comme celui-là. Parce que pour les inconvénients maintenant, enfin, qu'en est-il ?
Alors, malgré les possibilités de gains rapides, il est en réalité très rare de faire des gains conséquents avant plusieurs mois. Pour réussir, il faudra mettre beaucoup de volonté car c'est une activité à part entière. Les revenus sont inégaux et incertains. En effet, ceci dépend entièrement de la capacité des clients de vendre et de l'efficacité de l'équipe recrutée.
D'accord, oui. Donc, il faut quand même avoir les nerfs solides pour se lancer là-dedans et pour le nouveau client voulant entrer dans l'entreprise, donc au titre de recruteur. Est-ce qu'ils doivent payer quelque chose ou est-ce qu'ils ont des obligations à tenir ?
Oui, à chaque fois qu'un nouveau client voudra rentrer dans l'entreprise, il devra payer une quantité de produits définie par celle-ci et sera libre de revendre ses produits à quiconque les veut.
Mais comment cela se fait-il qu'on n'ait pas plus entendu parler de ça autour de nous ? Si c'est à la fois bénéfique pour le client et l'entreprise, tout le monde est gagnant, tout le monde est content, non ?
Eh bien, une des sources du problème est déjà là, si tu veux le savoir. En effet, ce système de marketing est très non populaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, beaucoup de MLM sont des escroqueries. Elles sont fictives et ne servent qu'à vous voler de l'argent. Il y a également énormément de personnes qui, en intégrant une MLM, ne ressortent pas gagnants. En effet, on le reverra plus tard, mais tous les systèmes MLM sont conçus pour ne permettre qu'à un tout petit nombre de personnes de gagner beaucoup d'argent. Il y a également le fait que la plupart des MLM ne tiennent pas plus de 2 ans avant de faire faillite ou d'arrêter ce modèle de marketing. Et finalement, la plus grande source de non-popularité du système est que la délimitation entre l'illégalité et la légalité est très infime. En fait, tout dépend si le produit apporté par l'entreprise est un bien-service matériel ou immatériel. Vous m'aurez compris, si c'est matériel, on respecte la loi, et à ce moment-là, la MLM est dans la légalité. Par contre, si son produit est immatériel, il vendra alors une promesse, et cela est illégal.
Ah, ça me rappelle la fameuse histoire là de...
Oui, tu veux parler du système de Ponzi, non ?
Je connaissais pas ce nom, mais plutôt sous le nom de jeu de l'avion.
En effet, les deux appellations signifient la même chose.
C'est bien le fameux banquier du coup qui avait réussi à poser un système de rémunération pour ses clients sans que ceux-ci n'aient à faire quoi que ce soit.
Oui, il promettait un rendement de 50% en 90 jours à tous ses clients. Au début, son escroquerie n'avait pas été découverte, mais elle apparut au grand jour au moment où la bulle spéculative a éclaté en Amérique. En fait, l'argent posé par les nouveaux entrants permettait de payer celui des anciens. Alors ce système marche tant qu'il y a assez de personnes qui rentrent dans le système. Cette magouille avait tellement bien marché qu'il a duré quelques temps, mais il y a bien un moment où il a tellement fallu d'argent pour rembourser tout le monde et que celui des nouveaux entrants ne suffisait pas, que tous les investisseurs sont partis perdants de l'affaire. Mais bon, bref, on pourrait faire tout un reportage là-dessus et je m'égare de mon thème. Mais le plus important, c'est que ce système est presque l'identique de celui des MLM. Le seul facteur qui change est ce bien matériel et immatériel proposé par l'entreprise. Maintenant, imaginez la réaction des médias après cette affaire de Ponzi, justement.
Ah ouais, je comprends. Les médias ont tellement critiqué ce système que cela a influé sur la mentalité des gens, finalement.
Oui, c'est exactement ça. N'importe qui de nos jours qui est au courant du système de Ponzi va se méfier du marketing relationnel. Et tout cela à juste titre, bien sûr. Maintenant, j'ai une petite question pour toi, Mathéo. Que penses-tu que les entreprises ou les personnes au début du lancement du système de Ponzi ont fait quand elles ont vu que leur argent avait été décuplé ?
Forcément, j'imagine qu'elles en ont parlé aux gens autour d'eux et qui, eux aussi, sont du coup rentrés dans ce système.
C'est certain, et ça l'est encore plus si celles-ci savaient comment le système fonctionnait. C'est-à-dire, justement, en recrutant les gens, elles auraient plus d'argent. On peut dire alors qu'elles ont condamné ces nouveaux entrants à une perte certaine. Réfléchissons maintenant au marketing relationnel. Le système de rémunération des clients est affiché en plein jour. Ils savent que c'est en recrutant qu'ils se feront de l'argent, non ?
Oui, forcément.
Tu peux me rappeler par quel biais le marketing de réseau se fait connaître ?
Le bouche à oreille. Ah ouais, du coup, on va inciter nos proches, c'est-à-dire notre famille, nos amis, etc., à rentrer dans la boîte. Et tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de boîtes qui ne marchaient pas, qui escroquaient les gens, et où la plupart des gens ne réussissent pas à tirer du bénéfice. Et tout ça pour nous faire de l'argent en plus.
Tu viens de comprendre la question problématique. Serait-on prêt à utiliser des liens d'amitié ou même des plus forts, donc ceux de la famille, au risque de les briser pour assouvir notre soif de cupidité en argent ? Voilà, donc continuez à nous écouter pour un développement de la question de problématique planifiée pour la semaine prochaine et j'espère que vous nous écouterez. On va tout de suite passer à quelle musique, Mathéo ?
Je crois que c'était In The End, parce qu'on termine cette partie de reportage, cette première partie de reportage.
Merci beaucoup.
It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go.
on se retrouve aujourd'hui pour parler du sujet le plus sérieux de nos émissions. Bon, bref, je vais aujourd'hui vous présenter le deuxième épisode de ma chronique sur la drague. Alors, dans le premier épisode qui a été diffusé durant notre première émission, j'avais été chercher quelques conseils de drague sur Internet. On en avait trouvé des bons, mais aussi des tout pourris. Donc, on va donc passer aujourd'hui à des conseils plus concrets, entre guillemets, parce que j'ai été demandé dans les couloirs de notre merveilleux gymnase quelles sont les meilleures techniques de drague. On écoute tout de suite leurs réponses et on va en parler tout de suite après avec Jade.
Salut, t'as 2 minutes ?
Ouais.
Est-ce que t'as une petite technique de drague que tu pourrais me raconter, s'il te plaît ?
Ouais, alors des fois, je vais en soirée avec un peu plus d'alcool que juste pour moi. Et quand je vois des filles qui ont l'air sympas, je leur en propose et c'est pratique pour engager la discussion.
Ouais, moi, c'est pas moi qui drague, j'ai un peu la flemme. Du coup, c'est les autres qui... Je laisse les autres me draguer, quoi.
Alors, niveau technique de drague, je sais pas, je fais un peu au feeling, perso, mais... j'ai pas trop de phrases d'accroche, mais je vais vers les gens, je parle, et des fois je chope, voilà.
Bon, en étant une fille, je pense que dans la drague, ce qui est important, c'est un peu les caractéristiques physiques, vu que la femme, elle doit, entre guillemets, être désirable, donc elle doit être jolie, l'homme, il doit plaire à l'homme. Donc je pense que pour draguer, déjà, je me ferais de la peine en avance pour être jolie, pour pouvoir justement impressionner avec ça, et après, sur le moment, je pense que je ne me poserai plus trop de questions. Je jouerai sur ça et j'espérerai que ça marche.
Alors voilà, j'ai réussi à récolter 4 témoignages plus ou moins intéressants.
En fait, ce n'est pas vraiment des techniques concrètes qu'ils nous ont présentées.
Effectivement, les réponses sont plutôt vagues, du genre on va au feeling, on se prend pas la tête à savoir exactement ce qu'on va dire avant d'engager une conversation avec quelqu'un. Et si ça marche pas, c'est pas grave.
C'est vrai, mais je suis en train de me dire que si tu m'avais posé la question, j'aurais répondu un peu pareil en fait.
Ça m'étonne pas du tout. En fait, quand j'ai parlé de cette idée de faire un micro-trottoir pour demander aux gens quelles sont leurs meilleures techniques de drague à des amis, ils m'ont pratiquement tous dit qu'ils n'en avaient pas forcément eux-mêmes des techniques. Donc, on analyse nos propositions. Et qu'est-ce que t'en penses de la première, Jade ?
Alors, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, à part le fait que ça fait un peu violeur de vouloir faire boire la personne que tu veux aborder.
Ouais, c'est vrai. Bon, la personne peut refuser l'alcool et elle peut quand même commencer une conversation avec toi. Mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre, surtout si la façon de t'aborder ou la personne a l'air pas très nette.
Je me souviens plus de la deuxième technique, tu peux nous la rappeler ?
Bien sûr, alors la deuxième personne a dit que c'était pas elle qui allait draguer, mais c'est elle laissait les autres la draguer.
Je sais pas trop quoi dire sur celle-là. Hein.
Mais je pense que le gars, il a juste la flemme, quoi.
Sûrement.
Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Bref, la troisième a dit qu'il comptait juste sur le feeling, et si ça marchait, tant mieux, et sinon, tant pis.
Ouais, une réponse banale, mais pas assez claire, quoi.
Effectivement, donc il a un peu résumé la pensée majoritaire des jeunes, je pense.
Et la dernière a dit qu'elle faisait attention à son apparence physique, si je me trompe pas.
Exactement, elle a dit qu'elle essayait de plaire physiquement et qu'elle jouait sur ça.
Je pense qu'on fait tous un peu ça en soi.
Ouais, je pense aussi. Donc voilà, c'était les techniques de drague basées sur des témoignages de gymnasiens. On se retrouve après les vacances pour la dernière façon de trouver des conseils et pour le dernier épisode. Je pense pas que vous soyez très prêts pour ça. Sur ça, je vous dis à la semaine prochaine.
On arrive dangereusement à la fin de cette émission. Alors, encore et toujours, ce fut un énorme plaisir de faire cette émission en compagnie de mes camarades, Mathéo, Leïla et Jade.
Et oui, on espère également tous vous revoir la semaine prochaine.
En attendant, toute la production de Radio 4 West vous souhaite de passer une très bonne semaine.
Portez-vous bien.
Des reportages inédits,
des chroniques fantastiques,
de l'actualité et de la bonne musique.
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, sur Radio 4 West.